Alors aujourd'hui, je vais vous lire la synthèse des yogas, Gnose et Ananda de Sri Aurobindo. C'est la synthèse des yogas 2, le yoga de la connaissance intégrale et de l'amour divin, traduit de l'anglais par Mère. L'âme de béatitude n'est pas liée à la naissance, ni liée à la non-naissance. Elle n'est pas poussée par le désir de la connaissance, ni assaillie par la peur de l'ignorance. La suprême âme de béatitude possède déjà la connaissance et transcende tout besoin de connaissance, n'étant pas limitée en sa conscience par les formes et par les actes. Elle peut jouer avec la manifestation sans être pénétrée par l'ignorance. Déjà en haut, elle prend part au mystère d'une manifestation éternelle. Et ici, quand le temps viendra, elle descendra dans la naissance sans être esclave de l'ignorance, ni enchaînée à la roue de la nature et à ses cycles. L'âme vit, elle n'est pas abolie. Elle n'est pas perdue dans un indéfini sans trait, car le principe vaut pour chacun des plans de notre existence. L'âme peut tomber dans le sommeil d'une transe absorbée en soi, demeurer en l'intensité ineffable de la possession de Dieu, vivre dans la plus haute gloire de son propre plan, l'Ananda Loka, le Brahma Loka et le Vaikundata, le Golo Loka des divers systèmes indiens. Elle peut même se tourner vers les mondes inférieurs pour les emplir de sa lumière et de son pouvoir et de sa béatitude. Dans les mondes éternels et de plus en plus, à mesure que nous nous élevons dans des mondes au-dessus du mental, ces états existent l'un et l'autre, ou l'un en l'autre. Ils ne sont pas séparés. Ce sont des pouvoirs coexistants et même coïncidant de la conscience de l'absolu. Sur le plan de l'Ananda, le divin n'est pas incapable du jeu cosmique, ni ne s'interdit d'exprimer ses gloires. Au contraire, comme y insiste l'Upanishad, l'Ananda est le principe créateur véritable, car tout prend naissance en la béatitude divine. Alors Sri Aurobindo, il y a une note de Sri Aurobindo en bas. C'est pourquoi le monde de l'Ananda est appelé Jhana Loka, au double sens de naissance et de félicité. Tout préexiste en elle en tant que vérité d'existence absolue. Et c'est cet absolu que le Vijnana tire au dehors et soumet à la limitation volontaire de l'idée et de la loi de l'idée. Dans l'Ananda, toute loi cesse et c'est une liberté absolue, sans condition et sans limite. Il est supérieur à tous les principes et en même temps, il jouit de tous les principes. Il est libre de tous les gunas. Et il jouit de ses propres gunas infinis. Il est au-dessus de toutes les formes. Et il construit et possède toutes ses formes et toutes ses images. Une totalité inimaginable. Tel est l'esprit. L'esprit transcendant et universel. Et pour l'âme aussi, être une avec la béatitude de l'esprit transcendant et universel, c'est être tout cela et rien de moins. Mais ce plan étant le plan de l'absolu et du jeu des absolus, il est nécessairement inexprimable par toutes les conceptions de notre mental et par les signes des réalités phénoménales ou idéales dont les conceptions mentales sont l'image dans notre intelligence. En fait, ces réalités elles-mêmes sont simplement des symboles relatifs de ces absolus ineffables. Le symbole, la réalité expressive peut nous donner une idée, une perception, un sentiment, une vision, même un contact de la chose symbolisée. Mais finalement, nous dépassons le symbole et nous arrivons à la chose qu'il symbolise. Nous transcendons l'idée, la vision, le contact, perçons le voile de l'idéal et arrivons au réel, réalité. À l'identique, au suprême, à cela qui est sans temps et éternel, infiniment infini. Quand nous devenons intérieurement conscients de quelque chose qui dépasse entièrement ce que nous sommes et connaissons maintenant, nous nous sentons puissamment attirés par ce quelque chose. Et notre première impulsion absorbante est de nous échapper de la réalité actuelle afin de demeurer entièrement en cette haute réalité. Sous sa forme extrême, cette attraction de l'existence suprême et de l'ananda infini aboutit à une condamnation de l'existence inférieure et du fini considéré comme une illusion et une aspiration au nirvana en l'au-delà. C'est la passion de la dissolution, de l'immersion, de l'extinction en l'esprit. Mais la vraie dissolution, le véritable nirvana et la délivrance de tous les asservissements de l'inférieur et l'entrée en l'être vaste du supérieur. C'est la possession consciente du symbole vivant par le réel vivant. Et finalement, nous découvrons que cette réalité supérieure est non seulement la cause de tout le reste, non seulement qu'elle embrasse tout, tout ce qui reste existe en tout le reste, mais plus nous la possédons, plus tout ce reste prend une valeur supérieure dans l'expérience de notre âme et devient le moyen d'une expression plus riche du réel, d'une communion plus diverse avec l'infini, d'une ascension plus vaste vers le suprême. Enfin, nous arrivons tout près de l'absolu et de ces valeurs suprêmes qui sont l'absolu de toute chose. Nous perdons la passion de la délivrance. Momuk Shutva, qui jusqu'alors nous avait poussés, parce que désormais nous sommes intimement proches de ce qui est toujours libre, de ce qui n'est ni pris ni attaché par ce qui nous lie maintenant, ni effrayé par ce qui nous semble un esclavage. C'est seulement quand l'âme enchaînée a perdu son exclusive passion de la liberté que la libération absolue de notre nature peut venir. Le divin attire à lui les âmes des hommes par des appâts variés. Tous sont issus des conceptions relatives et imparfaites de l'âme et de sa façon de comprendre la béatitude. Tous sont des moyens de chercher l'ananda, mais si l'on s'y accroche jusqu'au bout, on laisse échapper l'indisible vérité des félicités qui surpassent tout. Le premier dans l'ordre est l'appât d'une récompense terrestre, un prix de joie matérielle, intellectuelle, morale ou autre, dans le mental et dans le corps terrestre. Le second est une version plus lointaine et plus grandiose de la même erreur fructueuse. C'est l'espoir d'une félicité céleste qui dépasse infiniment ses récompenses terrestres. Et la conception du ciel grandit en hauteur et en pureté jusqu'à ce qu'elle arrive à l'idée pure de la présence éternelle de Dieu et d'une union sans fin avec l'Éternel. Et finalement, nous arrivons au plus subtil de tous les appâts, l'évasion de toutes les joies terrestres ou célestes, de toutes les douleurs et les souffrances, de tous les efforts, les ennuis et les phénomènes du monde, un nirvana, une dissolution de soi en l'absolu, un ananda de cessation et de paix ineffable. Mais en fin de compte, tous ces jouets du mental doivent être transcendés. La crainte de la naissance et le désir d'échapper à la naissance doivent nous quitter totalement. Car, pour répéter les paroles anciennes, l'âme qui a réalisé l'unité n'a plus de chagrin ni d'aversion. L'esprit qui est entré en la béatitude de l'esprit n'a plus rien à craindre de personne, ni de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit. La peur, le désir, le chagrin sont des maladies du mental, nées de son sentiment de division et de limitation. Elles disparaissent avec le mensonge qui les a engendrées. L'ananda est exempt de ces maux. Il n'est pas le monopole de l'ascète. Il n'est pas né du dégoût de l'existence. L'âme de béatitude n'est pas liée à la naissance, ni liée à la non-naissance. Elle n'est pas poussée par le désir de la connaissance ni assailli par la peur de l'ignorance. La suprême âme de béatitude possède déjà la connaissance et transcende tout besoin de connaissance. N'est pas limitée en sa conscience par les formes et par les actes. Elle peut jouer avec la manifestation sans être pénétrée par l'ignorance. Déjà en haut, elle prend part au mystère d'une manifestation éternelle. Et ici, quand le temps viendra, elle descendra dans la naissance sans être esclave de l'ignorance, ni enchaînée à la roue de la nature et de ses cycles. Car elle sait que l'âme, que pour l'âme dans un corps, le but est la loi des séries de naissance et de s'élever de plan en plan et toujours remplacer le règne du jeu inférieur par le règne du jeu supérieur jusque dans le monde matériel, tout en bas. L'âme de béatitude ne dédaigne pas d'aider d'en haut à cette ascension, ni ne craint de descendre les marches de Dieu jusqu'à la naissance matérielle. Et là, par le pouvoir de sa nature, de béatitude, de contribuer à l'attraction ascendante des forces divines. Le moment n'est pas encore venu de cette heure merveilleuse de l'esprit du temps, avec un grand T, dans l'évolution. L'homme en général n'est pas encore capable de s'élever à la nature de béatitude. Il doit d'abord s'établir fermement aux altitudes supérieures du mental, puis de là, s'élever à la gnose. Il est moins capable encore de faire descendre en son entier le pouvoir de béatitude dans la nature terrestre. Il doit cesser d'abord d'être un homme mental et devenir surhumain. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est de recevoir, à un degré plus ou moins grand, quelques reflets de ce pouvoir en son âme par une transmission amoindrissante qui doit traverser une conscience inférieure, et même cela lui donne le sens d'une extase et d'une béatitude insurpassable. Mais que sera cette nature de béatitude quand elle manifestera dans la race nouvelle, la race supramentale? L'âme pleinement évoluée, sera une avec tous les êtres, non seulement à l'état statique, mais dans les effets dynamiques de l'existence, d'une conscience de béatitude intense et sans limite. Et puisque l'amour est le pouvoir réalisateur et le symbole d'âme, de l'unité en la béatitude, l'être supramental s'approchera de cette unité et entrera en cette unité par la porte de l'amour universel, d'abord, par la sublimation de l'amour humain, puis par l'amour divin, puis un sommet de beauté, de douceur et de splendeur inconcevable pour nous maintenant. En la conscience de béatitude, il sera teint avec le jeu du monde entier et avec ses pouvoirs, ses événements, et à jamais seront bannis la peur et la tristesse, la soif et la douleur de notre existence mentale, vitale et physique misérable et obscure. Par la liberté de la béatitude, il aura le pouvoir d'unifier tous les principes contradictoires de notre être en leur valeur absolue. Tout le mal sera nécessairement changé en bien. La beauté universelle de celui qui est toute beauté prendra possession de ces royaumes déchus. Chaque obscurité sera une féconde gloire de lumière, et les discordes que le mental crée entre la vérité, le bien et la beauté, entre le pouvoir, l'amour et la connaissance, disparaîtront au sommet éternel en les étendues infinies où ils seront toujours un. Sri Aurobindo. Je remets cette lecture aux pieds de Sri Aurobindo et de Douce Mère, Ganga Lakshmi.